J'ai eu envie de commencer cette prédication comme ceci, une prédication toute simple ce matin. En même temps, j'en suis pas si sûr. Le sujet global, je vais l'évacuer dès le début, c'est... On parle beaucoup de vie spirituelle, mais on s'attarde beaucoup sur notre vie spirituelle et sur notre capacité à mener une vie spirituelle, mais on oublie peut-être que le plus important n'est pas là, que le plus important c'est Dieu. Et c'est ça ma simplicité de ce matin, de dire que, en fait, l'important c'est Dieu. Alors vous comprenez bien que le degré dans lequel vous prendrez cette affirmation peut choquer, soit vous irez vers l'évidence. Et donc à quoi bon ? Soit peut-être vous ferez, comme moi j'ai essayé de le faire à travers cette scène, un décentrement sur ce qui est peut-être plus important que tout le reste, en soi. Alors, commençons. Le nom de la ville où Jésus et ses disciples arrivent, c'est Naïn ou Naïm. Et ça vient de l'hébreu. Bien sûr, et ce nom évoque ce qui est doux, ce qui est agréable et ce qui est beau. Pourtant, il n'y a rien de doux, d'agréable ou de beau dans ce qu'il trouve, la foule des disciples. Aux abords de cette ville, un cortège de deuil, une autre foule, un cortège de deuil, une femme qui, vous l'avez entendu, avait déjà perdu son mari, une veuve donc, elle vient de perdre son fils unique, précise le texte. Autant dire, évidemment, qu'elle a tout perdu, mais ça vous le savez, vous connaissez bien cette pseudo-condition féminine, sans fils et sans mari, voilà. Bientôt, et c'est la condition donc, elle se retrouvera, cette femme, encore à l'entrée de la ville, mais... elle y sera au mieux une mendiante. La grande foule qui l'entoure maintenant sera dissipée. Elle n'a plus personne. Et demain, elle ne sera plus rien. Jésus la voit et il éprouve, dit le texte, dans une façon de traduire, qui sont nombreuses ces façons-là, il éprouve une stupéfiante émotion. La traduction française habituelle, il fut pris de pitié ou de compassion, ne dit pas la force de cette émotion. Sans rentrer dans les détails linguistiques, on va dire qu'il est saisi au plus profond de lui-même. Il est bouleversé, c'est ce que le texte dit. Il dit qu'il éprouve ce que la femme éprouve. Voilà ce que le texte dit, même littéralement. Hein ? Il éprouve ce qu'éprouve une femme. C'est ce que le texte dit. Il est bouleversé comme une mère qui perd son enfant. Et il lui dit immédiatement, « Ne pleure pas. » Il arrive, il est bouleversé et il suspend la marche. Il suspend la cérémonie. Il suspend la douleur, les pleurs. Il suspend le cortège, il suspend le temps. Ce « ne pleure pas », c'est l'axe majeur de ce récit. Non pas en tant qu'il est une injonction, qui sera peut-être suivie d'effet, en fait, on n'en sait rien. Mais à cause de la cessation que cette injonction provoque au milieu de ce récit, de cette scène, de ce paysage, de ce tableau, je ne sais pas comment l'appeler. Le cortège, le temps, la succession est suspendue. Le temps ne s'écoule plus normalement, comme les larmes de cette femme, peut-être, ne coulent plus à ce moment-là. Je ne dirais pas qu'elle pleure, qu'elle ne pleure plus, mais qu'à ce moment-là de ce texte, les larmes se sont arrêtées. C'est un temps qui n'est plus soumis au régime normal des choses qui se suivent et qui s'enchaînent jusqu'à ce que ce mort soit porté en terre, que la foule se dissipe, que cette fois les larmes s'assèchent normalement et que la solitude et la misère s'abattent sur cette femme. À partir de là, nous pouvons peut-être recevoir trois invitations pour ce matin. Donc la première, c'est une invitation à arrêter le temps quand c'est nécessaire. Oh, ce ne serait pas possible. Évidemment que ce n'est pas possible. Mais je laisse la question. Ce ne serait pas possible ? Mais si, si on le décide, quand on s'aperçoit que nous sommes sur quelque chose comme un tapis roulant, qu'on imagine perpétuellement en train de nous amener ailleurs. Ailleurs, c'est-à-dire vers une autre chose à faire. Oui, c'est possible de sortir du temps et le laisser filer, ce tapis. Une invitation, donc, à suspendre un peu notre course, surtout quand, par exemple, tout commence à s'enchaîner négativement. Dire « stop », regardez la scène de notre vie à ce moment-là comme si elle se figeait. Ne pleure pas. Oui, j'arrête de pleurer. Et pourquoi pas ? Pourquoi tout serait toujours plus fort que moi ? Y compris le chagrin. Ne pleure pas. Je regarde. Un moment, je cesse de chuter vertigineusement. Je ne sais pas à quoi ça sert. Mais contre toute logique, contre toute programmation, je cesse, moi, de contribuer à ce qui m'entraîne dans la chute. Et tant pis si c'est asocial, tant pis si je n'obéis pas à ce que j'aurais dû, en particulier dans les rites de deuil, si j'arrête de faire mon travail de deuil convenablement, ne pleure pas. Centre du récit. Voici la deuxième invitation pour nous ce matin. Notez, retenir qu'il n'est pas nécessaire de croire. Alors, je continue la phrase. Ou d'exprimer sa foi, ou de faire des actes spéciaux pour bénéficier de Dieu. En effet, cette femme n'exprime aucune demande. J'ai envie de dire son fils, qui serait peut-être le premier concerné, non plus, évidemment. Il n'y a aucun contexte. Cette femme, elle est peut-être ou peut-être pas juive, pratiquante, assidue, j'en sais rien. Jésus et cette femme ne se connaissent pas, en tout cas, le texte ne dit pas qu'ils se connaissent. Qu'est-ce que ça peut nous dire ? Cela pourrait vouloir dire qu'avant de parler de la vie spirituelle, il faudrait d'abord envisager Dieu. Cela pourrait vouloir dire que la vie spirituelle, pour nous, c'est bien autre chose d'infiniment plus grand et plus intense que notre pratique, nos rituels et aussi notre confession de foi. Ce ne sont pas ces actes qui sont très importants, évidemment, mais qui sont des redondances, qui sont le fondement d'une vie dite spirituelle. Ce récit dit, suggère en tout cas, que si, en tout cas me suggère, nous suggère peut-être, que si par exemple l'expression de la foi est une forme de reconnaissance de ce que Dieu nous a donné, elle n'est assurément pas la condition de ce don. Alors, je ne sais pas si le protestantisme franchira le milieu du XXIe siècle. Comme ça, je ne risque rien à dire ça. Je ne m'aborde pas plus loin sur le christianisme en général. Mais il peut donc être important maintenant, tant que nous n'y sommes pas encore, il peut donc être important de rappeler le centre vital de ce grand mouvement spirituel qu'est le protestantisme. Ce ne sont pas les œuvres qui sauvent, évidemment, ça on le sait. Mais ce n'est pas non plus la foi qui sauve, et on le sait aussi, moins bien, mais on le sait aussi. Car la foi, dans cette acception-là, ne serait qu'une œuvre de plus. C'est la grâce de Dieu qui sauve, c'est-à-dire, pourquoi s'encombrer de mots supplémentaires ? C'est Dieu, celui qui existe et qui n'existe pas seulement comme un prétexte pour ma vie spirituelle, enfin. C'est la grâce de Dieu qui sauve ce jeune homme Anaïm. C'est cette grâce agréable, douce et belle qui vient réveiller l'espoir Anaïm. Ce n'est pas la foi, ni même la tristesse de cette femme, ni même sa condition sociale future, présumée, Et c'est ça qui pourrait encore rendre le protestantisme encore impertinent face à tous les autres mouvements d'idées, face à toutes les frontières ecclésiastiques, face à lui-même très souvent, face aux dogmes, face à l'établissement religieux. C'est Dieu qui sauve, et c'est cette grâce de Dieu à travers la présence de Jésus qui sauve cette femme, puisque c'est elle qui est sauvée, plus, et là on reconnaît bien notre ami Luc avec son ironie habituelle, c'est elle qui est sauvée plus que ce que l'Évangile appelle encore le mort, alors qu'il s'assoit et qu'il parle. Pourtant, dans notre récit, et c'est ma troisième invitation et dernière ce matin, il est aussi question de foi. Et même s'il est question d'une foi, d'une confiance radicale, absolue, celle de Jésus, qui suspend tout le cortège de la mort, qui ordonne à cette femme d'arrêter de pleurer, il est animé d'une foi, d'une confiance bouleversante, aussi bouleversante que l'émotion dont il a été lui-même bouleversé quand il a vu ce qui se passait. Il est saisi d'une confiance totale pour arriver déjà à empêcher cette femme, en tout cas à vouloir l'empêcher, de continuer de pleurer. Imaginons qu'il touche le brancard et qu'il ne se passe rien, que le mort reste mort, que le mort ne s'assoit pas. Imaginez, je vous prie, la déception de cette femme et aussi la densité d'amertume qui sera contenue dans ces alors nouvelles larmes, avec en plus le début de haine qui va se propager dans la foule du cortège contre celui qui a voulu se donner un spectacle en profitant d'une situation dramatique, et aussi la déception et l'amertume qui pourrait surgir dans la foule des disciples. Oui, celui qui a osé interrompre l'ordre du deuil. Je vous invite à imaginer ça, mais en fait, je vous avoue que ce n'est pas possible de le faire, car il n'y aurait pas eu de récit, il n'y aurait pas eu d'évangile, il n'y aurait pas eu de Luc, il n'y aurait pas eu ici, nous, il n'y aurait pas eu moi qui prêche, il n'y aurait rien eu. Donc ce n'est pas possible d'imaginer ça. L'existence de ce récit, c'est comme l'existence de ce Dieu qui sauve. Mais Jésus, à la fois, il est possédé de cette confiance, à un tel degré qu'il arrive à suspendre le déroulement du deuil dans une telle densité qu'il ne doute pas du tout de ce qui va se produire, de ce que Dieu va faire ici à Naïm, maintenant et à travers lui. Jésus, dans ce récit, est rempli de la foi même de Dieu, de la confiance même de Dieu. Ce qui est mis en valeur dans notre récit, ce n'est pas la foi des humains, mais la foi de Dieu. Pour que la foi se transforme en grâce, il fallait suspendre l'enchaînement des étapes du rituel. Il fallait créer un moment suspendu. Il fallait un « ne pleure pas », suffisamment convaincu pour que cette femme, peut-être, cesse effectivement de pleurer. Et ça, c'est nous qui le rajoutons en lisant le texte. Il fallait tout suspendre pour que la grâce de Dieu se fraye un chemin, s'infiltre dans le mécanique déroulement de la fatalité ici présente. En conclusion, eh bien, je nous invite simplement à nous ouvrir à nouveau à ceci. Dieu sauve par grâce et rien ne conditionne cette grâce. Mais, d'après ce récit, le flux de cette grâce pourrait être obstrué par tout ce que nous aurions pu organiser qui ne laisse pas passer la grâce, qui ne lui laisserait aucune brèche et aucun moment. Alors oui, peut-être, l'invitation de ce récit, c'est de sortir des enchaînements de vie quand c'est nécessaire. Tant pis si c'est pas normal de faire ça. Suspendre nos pleurs, même si c'est même pas difficile, c'est impossible, même si c'est impossible. Et laissons-la venir, cette grâce de Dieu qui vient nous sauver. Ensuite viendra peut-être le temps de l'expression de notre propre confiance. Ensuite viendra peut-être le temps de la reconnaissance qui sera peut-être tombée sur cette femme par la suite. Et ce sera bon pour nous de nous exprimer. Mais le plus important n'est pas là. Il vient d'avant. Et c'est Dieu. Amen.